Thomas Ostermayer, on vous présente plus, on ne connaît que vous à Avignon. Anne Tismer, bonjour. Vous êtes une des comédiennes que l'on va pouvoir découvrir ici. Je dis découvrir parce que vous ne jouiez pas dans le Wojtek, alors que vous tenez le rôle principal de Nora et de concert à la carte. On va voir comment ces deux spectacles peuvent fonctionner en diptyque. J'ai envie de commencer, Thomas Ostermayer, avec un conseil presque pratique. Faut-il découvrir les pièces dans l'ordre où elles ont été créées, ou peut-on jouer comme ça au domino? Est-ce qu'il y a une logique dans la présentation des pièces qui est la logique de votre travail? Est-ce qu'il y a un mouvement comme ça de mise en scène entre la première Disco Pigs, ensuite Nora, puis concert à la carte?
Non, il n'y a pas une... Ou s'il y a une logique dans le chemin qu'on a fait les dernières années, c'est pas à moi à vous faire connaître, mais il y a un lien entre le choix qu'on a fait pour le festival et dans le sens que après avoir choisi le Wojtek pour le coup d'honneur, on voudrait bien montrer avec la mise en scène de la Maison de Pompé que mon théâtre s'agit aussi de notre classe sociale, de notre groupe des gens qui m'intéressent. Tout à fait ces personnages qui ne sont pas dans les Wojtek. Alors, peut-être on pourrait donner le conseil après avoir vu le Wojtek, c'est bien de continuer avec la Maison des Poupées. Et la pièce concert à la carte, c'est une pièce écrite 71 par Franz Xaver Krutt. Et c'était toujours une pièce que je voudrais bien monter. Et pour moi, c'était une sorte de continuation du travail sur la Maison de Poupée. Et quand on a discuté, Vincent, Hortense et moi, sur ce qu'on va montrer ici à Avignon, du travail que j'ai fait les dernières années, c'était Vincent qui disait qu'il aimerait bien donner au public la possibilité de voir à la fois Nora et en même temps, alors ce que veut dire le même soirée, le concert à la carte. Parce que c'est une des choses qui font un festival intéressant, qu'on puisse voir quelque chose qu'on ne peut pas voir normalement, parce que la Maison des Poupées et la concert à la carte, les deux sont joués par Anne Tismer et elle les joue pendant une soirée, ce qui veut dire 2h20 de Nora et après une pause de 40 minutes, la continuation avec la concert à la carte 1h20.
Ça veut dire que c'est le même personnage, c'est la même comédienne, mais c'est le même personnage aussi?
Ça pourrait être le même personnage, alors pour moi, mais ce n'était pas du tout le cas pour Krutt quand il a écrit la pièce. Mais on pourrait s'imaginer une sorte de continuation de Nora dans le sens que, après avoir tué son mari, elle va en prison pour 20 ans et après avoir quitté le prison, elle reste tout seule. Et c'est une soirée qui parle de la solitude d'une femme tout seule à la maison pendant 1h20 sans voix, sans parole, sans dire rien.
Anne Tismer, pour vous, c'est le même personnage puisque vous jouez les deux, ou il y a quelque chose qui se passe entre les deux rôles qui font qu'il y a très légère distanciation différente. Alors Thomas Ostermayer vous traduit, parce que je ne parle pas allemand.
La question, c'est que c'est...
Est-ce que c'est le même personnage pour vous, Nora, et le personnage de Concert à la Cave?
Also, ich betrachte das nicht so, als wenn es dieselben Personen wären, aber es könnte vielleicht sein. Aber es wird für mich, es gibt vielleicht höchstens Parallelen. Also ich denke bei dem...
Moi, je considère pas que c'est le même personnage, mais c'est possible.
Ich denke höchstens, dass man in seinem Leben, in seinem Leben, was man selber führt, verschiedene Persönlichkeiten verkörpert.
Je crois que dans sa propre vie, on vit plusieurs différents personnalités, personnages.
Und was Nora betrifft, würde ich sagen, das ist also eher so eine Studie über Macht. Und zwar
en ce qui concerne Nora, c'est plutôt une sorte d'étude sur le pouvoir.
Wobei Macht an und für sich erstmal eine positive Sache ist.
Pouvoir en elle-même, c'est quelque chose de positif.
Es gibt aber dann Ausgeburten der Macht, und zwar das...
Mais il y a des monstres du pouvoir.
Und das kann einerseits zu Machtmissbrauch und auf der anderen Seite zu Ohnmacht führen. Und diese extremen Zustände sind in Nora bei allen Personen sehr schön beschrieben.
Ces monstres de pouvoir pourraient amener vers une certaine... was war es? Ohnmacht?
Ja, Machtmissbrauch und Ohnmacht.
Mauvaise utilisation du pouvoir et une certaine comment ça s'appelle quand on tombe dans les pommes, ça s'appelle, je crois, coma. Coma, oui. Oui, coma. Coma.
Malaise.
Und was das Wunschkonzert betrifft, ist, würde ich sagen, eine Studie über eine Person, der alle Persönlichkeitsausdrücke weggenommen wurden.
En ce qui concerne la concert à la carte, c'est une étude sur un personnage qui a perdu toutes les expressions d'une personnalité.
Und wenn man möglicherweise, wenn man sie beobachtet, kann man den Rest davon entdecken, manchmal.
Et de temps en temps, on peut encore trouver des restes d'une personnalité, d'une personne chez cette Fräulein Rasch, chez ce personnage.
Alors, on a parlé de Nora et de Concert à la Carte. Vous faites la logique, Wojtek, Nora, Concert à la Carte. Et pourtant, il y a Disco Pigs. Enfin, pourtant et de trop. Il y a aussi Disco Pigs. Alors là, qui nous fait remonter bien avant dans votre travail, puisque c'est une des pièces que vous avez créées avant d'accéder à la direction, à la co-direction de Vacha Ogun, à l'époque où vous aviez la baraque. Est-ce que c'est un ovni dans ces quatre pièces, est-ce que c'est vraiment le point de référence duquel tout le travail va découler, ou comment s'inscrit cette pièce?
C'est une des dernières pièces qui reste encore dans le répertoire de la Schaubühne, qu'on a amené de la baraque à la Schaubühne. L'autre, c'est Shopping and Fucking, et Sous la Ceinture, qu'on a déjà montré ici à Avignon. Et je voulais, avec ce travail, montrer un peu le début où ça a commencé dans la marque, et un peu l'esprit dans lequel on a travaillé au début. Et aussi le fait que c'est un propos, un dispositif un travail très très simple, dans le sens qu'il y a un projecteur, deux chaises, un batteur et deux comédiens. Alors, un essai d'un théâtre pauvre, moderne, qui joue presque dans l'esprit d'un concert du rock.
Ça veut dire que vous faites du théâtre riche et moderne maintenant depuis la Shaobun?
Oui, peut-être. Non, mais en ce qui concerne le décor de Voltec et de Discopix, on ne pourrait pas s'imaginer une plus grande différence. Même si peut-être on parle des mêmes questions, de la même chose, mais il y a quelque chose de tout à fait différent. Et aussi le fait qu'on a, pas mal tourné Discopix partout dans l'Europe. Et les deux comédiens jouent depuis 6 ans des caractères d'une âge de 17 ans. Alors la pièce parle de l'anniversaire des deux, des 17e anniversaire des deux. Et maintenant, les deux, ils ont 35. Et ça va plus pour eux et pour moi. Alors, c'est les quatre représentations de Discopix. Ici, ce sont les dernières représentations de Discopix. Alors, après, on ne le jouera plus.
Est-ce qu'un des liens ne serait pas quand même la musique entre ces pièces? Parce que vous parliez de Discopix comme d'un concert rock. Dans concert à la carte, il y a le mot concert, mais il y a aussi beaucoup de musique, puisque s'il n'y a pas de mots, cette femme écoute la radio continuellement pour meubler sa solitude. Et on l'a vu dans Voitsek que la musique avait une part très importante, puisque vous aviez même fait appel à un rappeur français pour la version qu'on a pu voir dans la cour d'honneur.
Oui, il y a cet lien. Mais je crois que dans toutes les mises en scène, partout dans le théâtre, la musique devrait jouer un grand rôle. Dans le sens que déjà, la langue est une sorte de musique. Et j'essaie toujours de traiter une soirée, même si on n'entend pas la musique, de traiter une soirée comme une partition musicale. Alors, chaque mouvement produit une certaine son. Chaque chaise qu'on bouge sur la scène produit un son. Et les apparitions, les sorties des personnages, les mouvements, et tout ça, ou comme on le décrit Meyerhold, l'enchaînement des actions sur la scène, doivent être composés comme une partition musicale. Alors s'il y a de la musique dans le spectacle, c'est pas forcément l'épreuve d'un théâtre composé mais, ou d'un théâtre musical, mais le fait que, moi je crois, il y a le niveau des images, mais qui doit être bien observé et composé, et il y a aussi le niveau d'écoute.
Et le texte se passe dans quel niveau? Au niveau de la musique? À égalité avec la musique?
Maintenant j'ai un problème de traduction. Non, j'ai compris la question, mais la réponse, je le ferai en allemand. Meyerhold hat mal gesagt, der Text ist nur ein weiterer Streifen auf der Lochmusterkarte der Bewegungsabfolge. Ça, c'est très difficile à traduire.
Je ne sais pas si quelqu'un peut traduire. Je pense que c'est très important, mais je ne l'ai pas compris.
Allez-y. Wer ist denn der beste Übersetzer hier? Wir können ja einen Wettbewerb machen. Da kommt sogar ein Mikrofon. Da kommt ein Mikrofon.
Aber nochmal.
Ein weiterer Streifen auf der Lochmusterkarte der Bewegungsabfolgen.
Donc un trait supplémentaire sur la carte du déplacement en fait du personnage.
Nee, der Bewegungsabfolge.
Ah oui, de la façon dont le mouvement doit être fait en fait sur la carte de déplacement du mouvement.
Diese Lochmusterstreifen, das sind es gab Anfang der 20er Jahre oder des 20. Jahrhunderts gab es auch diese ersten Computer und das waren so Streifenkarten, wo es gibt auch bei diesen alten automatischen Klavieren, die so eine Walze haben.
Voilà, les cartes perforées, et en fait, ils parlent au début des années, enfin, au début du siècle, au début du 20e siècle, c'est les premiers, tout premiers ordinateurs avec cette espèce de cartes perforées.
Le texte est nur eines dieser vielen Streifen oder Perforationen. Ist der Text eines von 15?
D'accord. Et le texte est seulement une de ces lignes de perforation parmi les 15 qu'il peut y avoir sur une carte.
Voilà,
merci. Comme on a fait la promesse de se séparer à midi et demi, pour donc aller dans la cour d'honneur du Palais des Papes, je voudrais savoir si vous avez des questions à poser à Thomas Ostermayer ou à Anne Tismer. Monsieur.
C'est vastement technique. J'ai assisté évidemment à votre sec. Les autres, je ne sais pas. J'étais placé de côté dans la cour d'honneur. Et j'étais soumis aux enceintes sonores très puissantes qui étaient de part et d'autre. Bon, pour la musique que vous avez voulu introduire, c'est parfait, c'est un peu fort, mais toutes les voix des acteurs me sont parvenues à travers ces enceintes. Et je vois que vous avez le même sentiment que moi.
Oui, je suis bien conscient de ça, mais on fallait travailler comme ça parce que sinon les spectateurs au milieu auraient rien entendu. C'est ça, il y a un peu un problème de sonorisation. Je m'excuse pour ça.
Je vois que vous avez le même sentiment. Toutefois, j'ai assisté dans la cour d'honneur à des spectacles qui étaient sonorisés puisque on voit tous les petits haut-parleurs sous les sièges, n'est-ce pas ? Mais d'une manière très discrète, de sorte qu'on avait tout à fait l'impression, et on entendait d'ailleurs les acteurs amplifiés par ces petits haut-parleurs, tandis que là, ce sont les grandes enceintes de côté qui transmettent le son, alors là on n'entend plus du tout la voix des acteurs, s'ils ont des intonations un peu fines, c'est perdu. Hein.
Mais vous ne devriez plus avoir ce problème avec les trois spectacles de Thomas Ostermayer, puisqu'ils ont lieu au théâtre municipal et au lycée Saint-Joseph.
J'ai une deuxième question, excusez-moi. Dans votre mise en scène, les jeux de scène tiennent énormément de place dans la longueur de la représentation. De sorte que la longueur des répliques cumulées, si on la faisait, doit être très courte.
La longueur de quoi ?
Des répliques, de ce que disent vraiment les acteurs. Presque comme dans un opéra, si vous voulez. Alors, est-ce que vraiment le texte de l'auteur est finalement très court et que vous l'avez beaucoup amplifié par la mise en scène ou est-ce que vous avez fait des coupures ?
Non, mais il y aura une soirée qui s'appelle La Maison des Poupées et vous verrez bien que là, les dialogues, parce que c'est une pièce, un conversationsstück, une pièce de conversation. Et là, le texte prend beaucoup plus de place que le jeu.
Thomas Ostermayer, il y a une question, madame. Sur Wojciech. Mais on a déjà parlé quand on a parlé de Wojciech, il n'y a pas du tout de coupure dans le texte de Wojciech, dans la version que vous avez donnée. C'est un texte fragmentaire.
Voilà, voilà. Donc, le texte fragmentaire, il n'y a pas beaucoup de textes qui étaient écrits par Büchner parce qu'il est mort. Cependant, il a travaillé sur le texte. Il y a des textes autour de Büchner, vous disiez ?
Non, il dit que c'est une pièce autour de Büchner. Non, non, c'est l'intégralité.
Oui, oui, oui. Mais on entend quand même tous les textes de Büchner. Oui, il y a une seule partie qu'on ne montre pas. Qu'on montre pas. Une seule monologue de la grand-mère qu'on n'entend pas. Mais tous les autres dialogues sont dans la mise en scène.
Madame.
Oui, toujours pour Wojciech. Juste pour éclairer ma compréhension, j'avais l'impression qu'Andrés est représenté la personne qui avait le plus objectif dans la pièce. Et là, apparemment, celui qui était le plus ami avec Wojciech et qui l'aidait au maximum. Et j'ai eu l'impression que dans votre Wojciech, on s'en rend moins compte. On ne retrouve pas le personnage d'Andrés très très ami de Wojciech et l'aidant le plus possible. Est-ce que c'est voulu ou est-ce que moi j'ai mal interprété ?
Vous disiez que Andrés n'est pas un vrai copain de Wojciech dans la mise en scène ?
J'ai eu l'impression qu'il était moins copain que ce qu'on donne d'habitude à voir.
Oui, c'est bien possible, mais je voulais faire montrer une amitié entre quelqu'un qui devient fou et quelqu'un qui a le travail de aufpassen, de surveiller quelqu'un qui devient fou, quelqu'un avec qui il était ami, mais il a la peine à rester ami de lui parce que son meilleur ami devient fou et il le comprend plus. Il le comprend plus. Et je voulais travailler sur cet conflit entre les deux, le conflit dans cette amitié.
Y a-t-il d'autres questions, monsieur ?
Oui, bonjour. Je voulais simplement savoir quelle différence vous percevez dans les réactions du public entre un public à la Schönbrunne et un public en Avignon.
Il y a moins de respect pour mon travail à Berlin que ici à Avignon. Et quand on parle, je peux parler des deux premiers textes qu'on a montrés. Et les Wojciech, c'était tout à fait différent à ce qu'on a vécu à Berlin. Mais ça a beaucoup à voir avec le lieu qui joue beaucoup dans le travail, dans le code d'honneur, qui prend une très grande partie. Toutes les mythes qui est là autour du cours, j'ai l'impression que ça joue un très grand rôle pour le public quand il entre dans le code d'honneur. Et aussi le fait qu'on a joué en plein air et qu'on joue cette pièce-là qui parle beaucoup de la nature, du vent, du ciel, du soleil, de la lune. Ça a aussi apporté quelque chose à la mise en scène et ça a joué un rôle pour les acteurs, le grand espace, et c'était tout à fait différent à ce qu'on a eu comme sentiment quand on a joué à la Schaubühne. Et si on parle de la représentation d'hier, de Disco Pix, j'ai eu l'impression que il y a un peu trop de respect pour le travail, parce que cette mise en scène-là, c'est fait pour rigoler, c'est presque un concert, c'est très, très simple comme théâtre, et on peut le prendre légèrement et pas trop sérieux.
Madame, une dernière petite question, parce que vraiment on avait promis de se séparer à midi et demi.
C'est sur le personnage de Marie. C'est vrai que Büchner ne précise pas si c'est, on ne sait pas très bien si c'est une prostituée ou bien si c'est une seule relation qu'elle a. Mais dans beaucoup de mises en scène, j'ai l'impression que c'est plutôt quelqu'un qui se sent seul par rapport à son compagnon qui ne la comprend pas et qui est fasciné par ce soldat. Et puis c'est une relation ponctuelle avec lui. Alors que dans votre mise en scène, c'est plus une prostituée. Et je me demandais si ça
allait. C'est plus une prostituée.
On a l'impression quand elle danse comme ça et que tout le monde peut la voir et la lorgner, on a l'impression qu'elle est plus publique. Et je me demandais si c'était une prise de parti qui va aussi avec le fait que dans cette mise en scène, il n'y a pas un moment de chambre intime, puisque dans d'autres mises en scène, quand il lui donne l'argent, c'est dans la petite chambre, tandis qu'ici, c'est dans le seul espace. Alors, est-ce que c'est une façon de tirer cette relation, enfin, le concept de cette relation, vers quelque chose de plus social, de moins centré sur ce qui pourrait être intime, ou psychologisant à la limite?
Moi, j'ai l'impression qu'elle est moins prostituée dans ma mise en scène qu'on pourrait imaginer, parce que cette danse là qu'elle fait, c'est une danse qu'elle fait pendant une surprise partie pour le capitaine, et c'est pour le divertissement de cette groupe là. Alors c'est pas du tout quelque chose de professionnel. Et la façon dans laquelle elle est habillée et dans laquelle elle se comporte, je ne vois pas vraiment ce côté d'une prostituée.
La traduction, alors, quand je disais Pascal Schwalmensch, la traduction est peut-être
plus. Non, pas du tout. Pas du tout. La traduction. Elle dit « Bin ich ein Mensch ?» Et on a traduit « Suis-je un pute ?» Une pute. Il y avait écrit, le traducteur a proposé « Suis-je un être humain ?» Mais à l'époque, « Die Menschen » étaient des prostituées. Alors il y a la difficulté entre de comment traduire le double sens de cette expression, et surtout aussi la difficulté comment jouer ça en allemand aujourd'hui, où tout le public allemand a perdu ou oublié que à l'époque des Menschen étaient des prostituées. Alors c'est pour un public français qui peut voir la traduction, c'est beaucoup plus simple de comprendre le fait que une Menschen est une prostituée. Alors vous avez un avantage vers le public allemand.
Thomas Ostermeyer, on va se quitter puisque donc le rendez-vous dans la cour d'honneur du Palais des Papes, mais je ne résiste pas à une dernière question que je vais poser à Antismer. Notamment, on a beaucoup parlé du jeu des comédiens, alors pas forcément beaucoup à ces micros, mais on en parle continuellement à Avignon, du jeu très physique, assez extraordinaire de vos comédiens. Et pour avoir vu, ça n'était qu'une captation, mais la captation qui a été retransmise l'an dernier de Nora sur Arte, en version française et en version allemande.
Mal, mal synchronisé.
Mal synchronisé. On a pu quand même se rendre compte de votre jeu, notamment dans Nora, qui est assez épatant. Donc j'avais envie de vous demander, et c'est là où la question est un petit peu perverse, parce que c'est Thomas Ostermayer qui va être obligé de vous traduire, quel type de metteur en scène il est? Est-ce qu'il est très exigeant? Est-ce qu'il est un peu tyrannique? Est-ce qu'il vous laisse en repos de temps en temps, ou il vous demande toujours plus? Traduisez bien.
Fragt danach, ob ich, also was es anbelangt, das körperliche Spiel, wovon viel gesprochen wurde hier, von dem Ensemble. Und jetzt würde er gerne eine Schauspielerin fragen, ob ich ein fordernder Regisseur bin, ob ich nicht vielleicht sogar ein tyrannischer Regisseur bin. Und wie das ist, mit mir zu arbeiten und ob ich euch auch mal in Ruhe lasse.
Also erstens ist es von Stück zu Stück verschieden. Es gibt auch Stücke, die an der Showbühne gespielt werden, die überhaupt nicht körperlich sind. Hier zum Beispiel. Oder auch das Wolf-Konzert.
Ça dépend des pièces. Ça dépend des textes qu'on monte. Il y a par exemple des mises en scène qui ne sont pas du tout dans cette façon très corporelle, comme le concert à la car qu'elle va jouer, et une autre mise en scène qui s'appelle Monk de Sarah Kay.
Und was die Arbeit mit das kommt, ich glaube, das kommt hängt von seiner Laune ab oder von dem, was er gerade an dem Tag Lust hat zu machen, oder von dem, was die Schauspieler Lust haben zu machen, ob er tyrannisch ist oder ob er einfach da sitzt und zuschaut.
Also, was heißt Laune auf Französisch? Voilà. Ça dépend de mes humeurs et ça dépend des humeurs des comédiens, quelle envie on a. De temps en temps, j'observe. Et des autres, quand je exige beaucoup.
Und besonders anstrengend ist er vor der Premiere, weil er da noch alle möglichen Dinge ändern will. Und das ist für Schauspieler katastrophal, weil die möchten sich dann auf die Premiere vorbereiten eigentlich und müssen damit umgehen.
Vraiment difficile, c'est juste avant la première, parce que il veut toujours changer tout dans les derniers jours de répétition, et c'est une catastrophe pour un comédien, parce que le comédien doit s'entraîner avant la première, et ça devient très très exigeant et difficile.
Vous êtes d'accord avec tout ça?
Oui.
Merci beaucoup, Thomas Ostermayer. Merci à tous.